friand d'art. L'émission culturelle d'Alto.
Alors moi, il m'épate.
Bonjour, je suis Michel Najar. Je vous propose la deuxième partie de l'émission Cinéma sans frontières consacrée à Bernard Favre, à qui l'on doit La Trace. Cette émission donc a été, je vous le rappelle, enregistrée le 24 novembre. J'aimerais que tu nous parles de la direction d'acteur, de ce métier-là, un peu particulier tout de même, qui est de se coltiner avec des personnalités, quelquefois des gens qui en ont, quelquefois des gens qui n'en ont pas.
C'est très variable.
Ouais.
C'est très variable parce que ça dépend du comédien.
Oui. Alors, qu'est-ce que c'est un bon acteur, alors?
Un bon acteur, c'est celui qui vit le scénario, qui a tout compris, qu'on puisse en discuter, qu'on se mette d'accord, et après, de lui foutre la paix.
D'accord. Tu le diriges assez peu au moment du...
Au moment du... Ça dépend toujours, mais je dirais surtout sur les emplacements, sur les restes qui sont les gestes, les attitudes, les expressions. Non, je ne joue pas la scène pour le comédien.
Ok, d'accord.
On est d'accord avant sur le caractère de la personne, sur ce qu'elle pense sur le moment de la scène, sur ses rapports avec les autres, sur tata, parfois même sur l'histoire qu'on ne connaîtra jamais, mais sur son histoire d'avant. Voilà.
Ouais.
Après, tout ça. Après, c'est à elle de vivre ça.
D'accord.
Alors après, parfois, c'est pas si simple que ça. Ça peut être. Ou bien il y a des trucs un peu rectifiés, ou bien il y a des sources de conflits aussi. Voilà. Par exemple, j'ai un exemple qui est. Moi, je trouve que c'est un comédien qui m'émeut beaucoup, Charles Aznavour.
Oui, justement, je t'en parle.
Dans Pondichéry.
Oui.
Il me dit. Mais des mois avant, il me dit, écoutez, moi, ce que je vous demanderais, c'est de me donner le scénario deux mois avant et que vous y touchiez plus parce que moi, je vais apprendre mes répliques. Très bien. Il a appris son texte, on a discuté du film de son personnage. Et quand il est arrivé sur le plateau, il a fait ce qu'il voulait.
Il était libre.
Et il est magnifique.
Mmh.
Ben, de mon point de vue, hein.
Oui.
Mais il est magnifique. Mmh. Non, après, tout le monde n'est pas d'accord, et puis je m'en fous.
Mais par exemple, ce que tu dis à propos de d'Aznavour, on imagine aussi, c'est avec Boranger, mais il fait ce qu'il voulait, quoi. Parce qu'il tourne dans le même film.
Boranger, non. Boranger, il fait ce qu'il veut. Il va dans mon sens.
Ah.
Il va vraiment dans mon sens. Parfois, le personnage lui-même, on charge un peu, mais c'est le personnage qui est comme ça. C'est pas Boranger, c'est le personnage du film.
D'accord.
C'est Boranger en même temps, hein. Mais,
oui,
mais c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que j'ai pris Boranger, d'ailleurs.
D'accord. Mmh. Et tu as pris deux fois Richard Berry. C'est un hasard ou bien...
Berry, c'est plus compliqué. Berry, c'est plus compliqué.
Il était avec Claude Nedjar, plus ou moins, non, dans le paquet Claude Nedjar. C'est dans les films que tu as fait avec Claude Nedjar.
Oui.
Et donc, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un lien entre Berry et Nedjar.
Non, pas du tout. Non, moi j'avais envie de Berry.
D'accord.
Bon, alors je vais chercher un truc. Prends un peu de patience, je devrais le retrouver facilement. Je présente La Trace, je ne sais plus où, en Savoie. Je ne sais plus. Un homme m'accoste et me dit, vous savez, j'ai bien connu Claude Nedjar, mon producteur. J'espère que je l'ai, voilà. Ah bon, oui, ça a été un ami. Très bien. Voilà. Il me dit, voilà, et il m'envoie un mail après pour m'expliquer où il avait connu Claude Nedjar. De toute façon, si vous ne me montez pas, vous le mettez dans vos archives, c'est magnifique. Hein. J'ai connu Claude Nedjar à l'école des officiers de Tchertchel en Algérie. Pendant les 6 mois de formation de janvier à juin 1959. Les EOR, c'était des écoles pour les appeler.
Hein. Ouais. Pour les appeler, oui.
Il venait souvent rendre visite à un ami qui se trouvait dans notre chambre. On l'attendait car il avait toujours des nouvelles surprenantes. Il avait été boursier Zelidja et nous racontait ses aventures. Aux États-Unis, chez un marchand d'huile de voiture, où il a fait bondir les ventes, il avait dû fuir car le patron voulait le marier avec sa fille. Au Japon, parti avec les pêcheurs pour enquêter sur les retombées radioactives des essais nucléaires américains sur les lieux de pêche, il avait tenu toute la période, c'était très dur. D'autres journalistes étaient repartis à la première liaison, très familiers. Il avait adopté leur coutume. Ces hommes mettaient sous leurs oreillers une photo de leur femme. Il fit de même en découpant dans un journal la photo d'une star. Au retour dans la foule des personnes qui attendaient leur arrivée, cette star était venue l'accueillir. C'était la surprise des pêcheurs pour le remercier de son courage, mais le connaissant probablement aussi pour l'ambiance et la bonne humeur qu'il avait su créer. La publication qu'il fit de ce séjour déplut à des politiciens et à des militaires, et le jugèrent subversif. On commença par lui bloquer son courrier, ce qui l'inquiétait beaucoup. On lui tendit un piège, ravitailler la cité Suilamas, espèce de bidonville au-dessus de Churchill, qui regroupait les habitants des zones interdites décidées par l'armée, lieu de misère, sans hygiène, et où la famine régnait. En peu de temps, on y mangeait les glands. En peu de temps, il organisait une arrivée de pommes de terre. Un train devait les amener et nous étions prêts pour transporter les sacs sur le dos jusqu'à la cité. L'ordre lui arriva alors de tout arrêter. Cette machination stupide signifiait qu'il était à l'index. Puis tout sembla se calmer, mais à la nomination des grades, par décision ministérielle, il n'était pas officier. C'est le départ dans le bateau qui nous ramène. Il est sur le pont de première classe. N'étant pas officier, il ne pouvait pas y être. Comment a-t-il fait ? J'ai mis des canons de sous-lieutenant sur mes épaules et je suis monté, a-t-il dit. Là, je le reconnaissais. Alors ce soir, ma cabine t'attend. Presque 2 ans plus tard, revenant avec la quille, je me retrouve sur un quai de gare à Grenoble. Un gars est assis devant une petite table, c'était lui. J'ai organisé une manif contre la guerre d'Algérie, j'attends du monde. Viens avec nous, ce serait super, un sous-lieutenant en tenue. L'ai-je déçu, mais à ma place, je suis sûr qu'il aurait accepté. Il m'a expliqué alors qu'au retour des EOR, il était allé directement au ministère des Armées et avait obtenu l'accord de commander une section et avait été blessé. Et maintenant, je les emmerde, j'ai reçu une balle, je traîne la patte, ils ne peuvent plus me dire que je ne voulais pas me battre. C'était notre dernier entretien. Il était plein d'empathie, le stage était dur, nous peignions tout le temps, il trouva le temps et l'énergie de nous divertir, de faire venir une chanteuse tahitienne et organisa un concert à l'école. Voici mes souvenirs avec Claude Nedjar.
Claude Nedjar, oui. Voilà. C'est un grand producteur français, il faut rappeler quand même qu'il a fait, entre autres, La vieille dame indigne...
Il a lancé la guerre du feu.
La guerre du feu, oui, tout à fait, oui. Le souffle-cœur de Louis Malle. Le souffle-cœur quand même.
Il décote avec les Malles.
Oui. Et des films assez, assez risqués, finalement, et ambitieux. Parce que même la guerre du feu, il faut quand même...
libertaire bizarre, étrange. Non, monsieur, voilà. Après, faites ce que vous voulez de ça, mais je trouve ça magnifique.
Ouais, non, mais ça, voilà. C'est...
Donc voilà, je suis fier d'avoir travaillé avec ce mec-là.
Ouais. Mais tu as travaillé deux fois avec lui.
Qui, à côté de ça, pouvait faire n'importe quoi quand même pour trouver de l'argent. Hein. Mais parce qu'il voulait faire les films.
Mais il était prêt à ça.
Ouais. Ouais. Bon, on était un petit peu fâchés à la fin, parce que c'est vrai quand même que sur Van Dialerne, quand même, il me demandait des trucs que j'ai refusés. Mais si, fais-le pour qu'on puisse avoir de l'argent. Et je dis non, ça je peux pas faire ça, je peux pas. Bon, c'était un peu fâché. Et je lui avais dit, c'était pas très élégant de ma part, je lui avais dit, t'aurais vendu Top Pérémère à la Gestapo.
Oh, c'est pas.
Je pense qu'il aurait pu le faire pour faire un film.
Ah oui, à ce point. Mais qu'est-ce qui vous a rapproché alors au moment de la trace? Comment s'est fait le rapprochement avec Claude Nedjar?
La sympathie. Non, c'est d'abord. D'abord, il faut dire que c'est Tavernier qui l'a trouvé.
Ah oui.
C'est Tavernier qui lui a communiqué le scénario.
D'accord.
Ça l'a emballé, il a démarré au quart de tour. Je l'ai rencontré, on a sympathisé, on est devenu proche. Il avait en plus un assistant qui était un mec génial, avec qui j'étais devenu ami. Donc voilà, on parlait des mêmes choses, de la même façon. On avait des rêves un peu fous, un peu les mêmes. Donc voilà. Ça marchait.
D'accord. Donc, c'est par Tavernier. que tu l'as...
C'est par Tavernier. Ouais. C'est Tavernier l'intermédiaire.
Mmh. Et Tavernier, tu l'as connu comment, alors, du coup
j'arrive par pas un copain. Le... Ouais. Par un copain qui travaillait à la télévision scolaire, qui produisait de temps en temps des courts-métrages, et qui connaissait Tavernier. Je lui avais fait lire le premier scénario, et qu'il avait refilé à Tavernier. Et un jour, mon téléphone avait sonné, et un mec me dit « Je m'appelle Tavernier, j'ai lu votre scénario. » Et j'ai pensé que c'était un pote qui me faisait un truc. C'était courant de faire des représentations. Il dit « C'est ici, je crois. David Cesny, je vous appelle Bollywood. » Bref. Donc au début, je pensais que c'était... Non, il avait lu le scénario, et donc voilà, ça avait démarré comme ça.
D'accord.
Un jour, j'ai quitté mon village pour la ville, et en arrivant, j'ai cru qu'une main de géant venait de frapper mon visage. La ville danse est à mes yeux comme un ballet exceptionnel, réglé par les forces du ciel, animé par le feu de Dieu. La terre semblait jaillir les accords d'une symphonie, composée de sons et de bruits, de larmes, de cris et de rires. Et les feux rouges, jaunes et verts semblaient vouloir réglementer la marche plus ou moins pressée de tout un monde bariolé. Des uniformes battaient la mesure avec un bâton blanc, dirigeant le grand trafic de cette masse en mouvement. Ce monstre gris à mille bouches, appelé métropolitain, semblait happer ou rejeter l'immense flot humain. Je pensais, attention, attention, la ville est une étrange dame, dont le cœur a le goût du drame. Elle est sans feu, elle est sans âme, elle est comme un gouffre sans fond. Et je restais émerveillé de ce que j'avais découvert, cœur battant, les yeux grands ouverts, avec l'impression de rêver éveillé, sans savoir que je pénétrais dans le temple des illusions, entraîné dans un tourbillon insensé. Dans la houle incessante de la foule puissante, une fille avec un teint de plâtre m'a dit: viens, toi qui portes en ton cœur les eaux fortes d'ailleurs, sans regret, entre dans mon théâtre. Moi, dans l'atroce cohue, comme un gosse perdu, croyant que c'était ma providence, je l'ai suivi tout le jour, mais dans ma nuit d'amour, elle a ri, elle a ri. Attention, attention, la ville est une étrange dame, dont le cœur a le goût du drame. Elle est sans feu, elle est sans âme, elle a brisé mes illusions. Adieu ma ville au cœur cruel, faux paradis pour malheureux, me jetait la poudre aux yeux pour m'empêcher de voir le ciel réel. Et dans le froid du petit jour, si je repars désemparé, c'est dans l'espoir de retrouver ma maison, mon soleil, mes amis.
Bernard Favre est l'invité de Cinéma sans frontières.
Je voudrais que tu me parles de ton... Parce que quand je lis les génériques, je vois les gens qui travaillent avec toi. Enfin, tu vois, et puis, il y a quelqu'un qui travaille beaucoup avec toi. C'est Emmanuelle Thibault, c'est la monteuse. Alors, tu peux me dire un mot de cette histoire-là ?
Plusieurs.
Hein, avec plaisir, bon.
C'est une jeune fille que j'avais rencontrée en 76 ou un truc comme ça. Elle était assistante monteuse à l'époque. Elle travaillait. Elle avait fait déjà des trucs et à ce moment-là, elle travaillait à l'INA. Elle travaillait comme assistante monteuse sur une série d'un réalisateur espagnol sur les généraux du Chili. C'était un truc génial. Genre, il avait interviewé les généraux, les familles, etc. Il était rentré en France, il avait commencé à monter. C'était genre, il interviewe la femme de Pinochet et il lui dit, avec pleine innocence, selon, d'après vous, votre mari, est-ce qu'il a un défaut? Et si oui, lequel? Et elle répond, oui, il est un peu autoritaire. Et derrière, il y a le témoignage de gens qui ont été torturés par la police de Pinochet.
Ah oui, d'accord.
Donc, ce qui explique pourquoi cet homme s'est caché quelque temps.
D'accord.
Il était condamné à mort. Hein. Il avait des coups de téléphone de l'ambassade du Chili qui lui disait, vous allez mourir.
Pour, en revenant à Emmanuelle Thibault, ces qualités au montage qui ont fait que tu as travaillé tout le temps avec elle jusqu'à...
Alors, je ne sais plus dans quel sens on a travaillé ensemble. Parce qu'il se trouve qu'on s'est mis ensemble 2 ans plus tard à peu près, 78 ou 79. Et donc, est-ce qu'on était ensemble? Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est elle qui monte? Est-ce que c'est elle qui monte la montagne dispersée? C'est bien possible.
Est-ce qu'on est déjà
ensemble à ce moment-là ou pas? Je ne sais plus. Sincèrement, je ne sais plus. Mais bref, donc on commence à travailler ensemble très rapidement.
D'accord.
Parce que, et très vite, elle a un vrai regard. Quoi. C'est quelqu'un qui... Tu sais, il y a deux sortes de monteuses, ou monteurs.
Les monteurs.
Il y a ceux qui pensent qu'il faut absolument qu'ils accouchent le réalisateur de son film. C'est-à-dire que c'est eux qui ont les bonnes idées et pas toi le réalisateur. Mm-hmm. Et puis les autres qui essayent de te faire cracher tes bonnes idées. Mm-hmm. Et elle était du genre à te faire cracher les bonnes idées. Ces bonnes idées à elle, si t'en voulais pas, elle s'en foutait.
Il y a des éléments que tu aimes bien faire, c'est mettre des espèces de points de suspension entre les séquences. Tu vois, une mouette qui vole, un panneau sur un paysage, Richard Berry qui marche. C'est juste pour découper le film.
Elle est forcément partie prenante dedans. La monteuse, ma petite amie, puis ma femme par après. De toute façon, la monteuse est forcément impliquée là-dedans. Après, est-ce que c'est à 80%, à 20%, à 10%? Je serais incapable de dire.
Oui. Bon, c'est un peu le pourcentage que tu donnes quand je te demandais il y a quelque temps quelle était la part d'influence des films que tu cites. Et puis tu me dis, oh, je sais pas, ça reste dans ma tête, puis je le remets, c'est pas conscient.
Je suis sûr.
Et là, il y avait quelque chose. Mais, oui.
C'est, très jeune, j'ai regardé beaucoup de films américains, La guerre du Pacifique, etc. C'était très à la mode dans les années 55-60. Il y avait plein de films américains avec l'armée qui débarquait à Okinawa ou qui se battait contre les jaunes en Corée. Ou là. J'en ai vu des tonnes. Je serais incapable de citer un titre.
Ouais.
Les maraudiers, ici, les maraudeurs attaquent à l'aube.
Les maraudeurs attaquent à l'aube, oui.
Et barrage. Pas le barrage contre le Pacifique,
non,
mais
le
barrage, bref. Je suis sûr que dans mes films, on y retrouve des choses. Mm-hmm. Mais c'est totalement inconscient.
Dans ta relation avec Emmanuel Thibault, Emmanuel, puisque tu dis, bon, il y a des choses qui lui appartiennent, puis d'autres...
Ouais. On parlait beaucoup, d'abord on parlait beaucoup de cinéma, on regardait beaucoup de films, on allait énormément au cinéma ensemble.
L'année de la disparition d'Emmanuel, c'était quand ?
Emmanuel ?
Oui.
Il y aura 11 ans en février qui vient.
En février, là ?
Oui,
déjà, alors ? Ça fait...
De toute façon, on avait une relation assez fusionnelle, mais dans le travail, ça l'était aussi.
D'accord.
C'était très agréable de travailler avec elle. Mais en plus, il faut avouer qu'elle avait une bonne patience, parce que je suis quand même assez...
T'es exigeant pour t'es, dire chiant. J'allais dire emmerdant, mais non, exigeant, tu dis-toi.
Chiant. Bon. Certains témoigneront. Certains plus que d'autres.
Tu m'as fait découvrir un musicien, là je parle donc des gens, et qui s'appelle Marc Marder. J'ai vu son nom aussi au générique des films de Ritipan.
Ah bah surtout, oui. C'est le musicien de Ritipan.
C'est le musicien de Ritipan. Mais il se trouve que depuis quasiment 20 ans, hein, tu tournes avec lui. Enfin, tu travailles avec lui, oui. Donc tout de même, ça fait une collaboration assez intense. Alors qu'est-ce qui...
On s'est rencontrés simplement... il n'a rien fait pour me plaire. Je déconne. c'était où ? C'était dans le Midi, près de Marseille, là où il y a la Légion. Il y avait un festival de cinéma et il était organisé. Il était organisé des classes pour des élèves de conservatoire qui travaillaient sur la musique de film. Où il y avait Marc Marder comme intervenant musicien, c'est la SACEM quand même, descend. Et moi comme réalisateur.
Ah, d'accord.
Donc on a sympathisé, on a bu des coups ensemble, on a rigolé, voilà, puis on est resté liés.
D'accord.
Et puis depuis, on parle ensemble.
Mmh. C'est marrant cette permanence comme ça dans la.
Alors moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'a en dehors de l'individu, ce qui m'intéresse en lui, dans sa musique, c'est qu'elle n'est pas. Elle n'est pas mélodique.
Oui, on est d'accord. Ouais.
Voilà.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'au moment où la jeune fille tombe de voiture et se blesse gravement, il n'y a pas de violon. Il n'y a pas, tu vois, bon. Il n'y a pas vaguement une fausse copie d'une sonate de je ne sais pas qui. Non. En fait, pour moi, alors. C'est pas la même musique du tout, hein, mais quand même, c'est quelqu'un qui serait assez proche de Bernard Herrmann.
Voilà, oui, c'est ce que je pense aussi, oui. Oui.
Voilà. Ou de, mais même si c'est pas du tout la même musique, mais de Phil Glass.
Oui, Phil Glass, oui.
Ils sont pas des...
Ça, oui, c'est vrai, ça n'a pas grand-chose à voir, mais...
Parfois, ça peut être des musiques de nappe. Voilà. Des fois, pas du tout. Enfin, tu vois, c'est vraiment... C'est un Américain.
Oui, d'accord.
Aussi.
Oui, mais il travaille en France. Hein, enfin,
donc, c'est quand même, c'est une musique qui se réfère quand même pas mal Bah, c'est un mec qui a fait ses études aux États-Unis. Ses références, c'est quand même au départ des musiciens américains. Oui, bien sûr. Bon, pour moi, c'est
un... C'est un grand musicien, oui. Oui. Oui.
Bernard Favre est l'invité de Cinéma sans frontières.
On aurait pu parler de Piovani, de Perron pour La Trace, mais non, peut-être que...
Ah bah oui, Marc Perron, bah c'est La Trace. Marc Perron, je le rencontre pour l'accordéon, parce que c'est le seul grand accordéoniste diatonique à l'époque. Je le rencontre, et puis j'avais écrit, il ne faut jamais écrire n'importe quoi, l'histoire d'un mec qui a un accordéon qui monte du sud de l'Italie, etc. Après, il fallait trouver le comédien qui savait jouer du diatonique, qui était du sud de l'Italie, qui connaissait un dialecte du sud de l'Italie. Et quand je vois Marc Perron, tu vois sa tronche et tout, je me dis, c'est lui. Oui. Donc, je lui propose le rôle. Mais évidemment, il n'en veut pas, il dit, je ne suis pas comédien. Il a fallu batailler, en même temps qu'on travaillait pour la musique, il a fallu batailler et l'accepter. Et moi, personnellement, alors je pense que
c'est... Oui, c'est...
Vraiment, c'est... Et sa musique est magnifique. Alors, c'était la musique dite de scène, la musique qu'on voit. Donc, pour la musique dite de fausse, je voulais absolument Nicolas Piovani, parce qu'il avait fait la Notte di San Lorenzo.
Oui, la Nuit de San Lorenzo, de Frère Taviani.
Qui est une des plus grandes musiques de film.
Oui, c'est vrai.
Donc, le Neger m'a dit, ne t'inquiète de rien, tu l'auras. Je l'ai eu. Mais c'est Neger. Il a été à Rome, puis après il m'a fait venir à Rome. On a rencontré Nicolas, on a discuté, on a été au restaurant. Il parlait couramment français, bien mieux le français que moi, je ne parle l'italien. Donc voilà, ça s'est passé naturellement. Il a regardé des roches, il a dit volontiers, ça. Puis après, c'est une histoire un peu longue, l'histoire de la composition, mais c'est, voilà. La musique a démarré de cette façon-là.
Oui, et puis la musique de la trace, c'est souvent les gens qui en parlent, qui parlent de la trace, ils disaient la musique. Là, ils sont.
C'est vraiment les musiques, on dirait, il faudrait parler des musiques.
Des musiques, oui, mais bon.
Même si ça s'imbrique, mais il y a la musique de Marc, la musique de Nicolas.
Oui.
Mais c'est magnifique. Alors, pour l'anecdote, un peu triste, j'ai fait des fichiers MP3 ce matin de quelques musiques de la trace, parce qu'elles vont être jouées demain pour l'enterrement de la mère d'une amie. Qui adorait l'accordéon, qui adorait Nicolas, qui adorait. Et donc, sa fille veut que soit jouée la musique de la trace.
Ouais.
Donc, tout ça n'est pas inutile. On ne travaille pas pour rien. Mais ce qui est vrai,
C'est vrai, oui. Ça fait partie des...
Mais je ne serai pas à la sortie pour vendre les disques.
Pour ? Excuse-moi, c'est pas passé le son, là.
Je ne serai pas à la sortie de l'enterrement pour vendre les disques.
D'accord.
J'ai tort.
Alors, j'ai pensé qu'on pourrait terminer sur ta carrière d'écrivain. Voilà, je savais que tu allais rigoler.
Ma carrière d'écrivain débute en 1957, où j'écris des pièces de théâtre pour le patronage.
Ah ben c'est bien, écoute. Je l'ignorais, je t'attendais pas là.
Puis elle continue en 65-64. J'ai écrit une pièce qui était une comédie musicale, qui s'est arrêtée une semaine avant la représentation. Puis après la trace, j'écris un roman qui a à voir avec la musique et la guerre d'Algérie, qui a failli être édité. Il y avait un éditeur qui était vraiment intéressé, mais il m'a dit il est un peu court, il faisait 150 pages. Il faudrait l'épaissir. Donc je l'ai rangé. Enfin, je ne l'ai pas rangé, je ne sais même pas où il est. Je l'ai abandonné, lâchement. Et après, je suis passé au cinéma, ça m'a pris du temps.
Mm-hmm.
Et puis là, donc, depuis 3 ans, Cette lumière n'est pas celle du soleil.
Oui.
Je déménage, je suis à la campagne, tranquille, avec de l'espace. J'abandonne le cinéma, je le laisse tomber, je m'en sépare.
Mm-hmm.
Et comme je sortais de la, de toute cette résistance, je tombe sur une histoire assez abracadabrante de 3 personnages. Et donc, je me mets à l'écriture de 3 personnages qui se croisent, disons, dans les années 30, 40, 50, pour ceux qui sont vivants, qui se croisent, s'épousent, militent, dans la guerre, résistent, tous ensemble.
Mmh.
Et donc, je propose ce livre qui faisait pas loin de 500 pages à des éditeurs. Alors, j'ai un très bon accueil. J'ai eu des réponses de tout le monde, sauf un seul éditeur, ce qui est quand même pas mal. Et ils me disent tous, c'est vraiment bien. Et quelques-uns me disent, sauf que, on ne vendra jamais ce livre, on n'y arrivera pas. Donc on ne vous éditera pas. Je trouve bien de m'avoir dit ça, plutôt que je ne sais pas quoi. Donc je suis déprimé, et j'avais envoyé aussi un tout petit éditeur qui me dit, c'est formidable, si vous le réduisez à 150 pages, je l'édite. Je dis, mais comment voulez-vous que je réduise 500 pages à 150? Donc je pars déprimé, et en cours de route, dans le train, en rentrant chez moi, je me dis, mais si je faisais 3 livres, un livre par personnage. Donc, je retéléphone à l'éditeur qui me dit, c'est une très bonne idée.
Ah, ben c'est bien.
Et je me mets à l'écriture et j'écris 3 livres.
D'accord. Tu n'es pas contenté de couper dans le...
C'est pas possible.
C'est pas possible. Okay.
C'est pas possible.
Donc, tu as complètement réécrit, quoi.
Parce que ces gens se croisent tellement que quand ils se croisent, il faut bien rappeler ce qu'était l'autre. Mmh. Il faut faire des rappels. Il faut faire en sorte que si t'en lis un et que tu lis pas les autres, c'est pas grave. Enfin, tu vois, c'est... Donc là, j'y ai passé du temps. Mais bon, je lui envoie le premier, il est ravi. Il édite le premier, j'écris le second, le troisième. Bon, voilà. Alors après, c'est des carrières. C'est le premier, il doit se vendre à 500 ou 600 exemplaires. Le deuxième, il sort peu de temps avant le premier confinement. Et le deuxième sort en juillet de cette année. Donc, tu vois, Ils ont des petites carrières. C'est pas grave. Ça existe, il y a des gens
C'est trois tomes, en fait. Hein, on est d'accord. Ça s'appelle Le Chant des Ruines. Hein.
C'est une trilogie. Donc, c'est Le Chant. Le Chant.
Des Ruines. La musique, oui. Le
Chant des Ruines.
Des Ruines.
Donc voilà, c'est trois tomes.
Suite et fin de cet entretien en deux épisodes avec Bernard Favre, émission réalisée par Michel Najar, à retrouver en réécoute sur le site de Radio Alto.
Bon.
Bon.
Allez Bernard.
Allez, bon après-midi. Salut.